Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous juste un verset qui se trouve dans Jean. Jean 17. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un passage extraordinaire qui résume beaucoup de choses. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais demander à quelqu'un de prier avant le message, un volontaire. C'est de connaître Dieu. Et celui qui connaît Dieu, eh bien, toute sa vie est transformée. Toute sa vie est transformée. Notre attitude change. Et c'est pour ça que Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Imaginez, je vais prendre un exemple concret. Donc, une rencontre et toute une vie est bouleversée. Par exemple, si je prends l'exemple de Chantal, avant de rencontrer Pascal, tu avais des projets, n'est-ce pas?
Oui.
Et après, quand tu as rencontré Pascal?
J'en avais toujours.
Mais, est-ce que c'était le même? Et d'autres non. Voilà. Donc, on fait une rencontre et puis il y a beaucoup de choses qui changent. On peut examiner ça dans chacune de nos vies. Lorsqu'on rencontre Dieu, eh bien, cela nous transforme totalement. Il y a un passage merveilleux là que notre sœur a lu tout à l'heure dans 2 Samuel 24. Pourquoi est-ce que David disait « Je ne peux pas offrir quelque chose qui ne coûte rien à l'Éternel » Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Et il l'aimait tellement, il disait « C'est pas possible, je ne peux pas offrir quelque chose qui ne me coûte rien à mon Dieu. » Et quelques versets avant ça, écoutez ce qu'il dit. Donc il faut savoir dans ce passage, David avait fait une bêtise, il avait désobéi et l'Éternel était fâché contre lui. Et donc Dieu lui avait mis un choix à faire. On va lire verset 12 de 2 Samuel 24. On va lire à partir du verset 10, comme ça vous comprenez un peu mieux. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ?» Hein? Donc, je répète les options que l'Éternel lui donne. « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Pourquoi ? Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Parce que David connaissait son Dieu et il dit, « Oh, Seigneur, je veux tomber entre tes mains. Parce que je sais que toi, tu as un Dieu de compassion. » Il dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je ne sais pas ce qui va m'arriver avec les hommes, mais que je tombe entre les mains de l'Éternel parce que je sais que c'est un Dieu de compassion. Voilà l'homme qui était David. Et c'est pour cela que vous savez, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David connaissait Dieu. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que David a écrit tellement de poèmes, tellement de psaumes à son Dieu. Et donc voilà, lorsqu'on connaît Dieu, nous avons une nouvelle perspective, une nouvelle vision, que ce soit de Dieu lui-même, que ce soit des hommes, ou bien que ce soit des choses de ce monde. Moi, je me rappelle personnellement, en tant qu'adolescent, le moment où j'ai vraiment rencontré le Seigneur, eh bien, toute ma vision a changé. Le but de ma vie avait changé. Avant, je me disais, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Et une fois que j'ai rencontré le Seigneur, eh bien, je savais tout de suite, en grande ligne, ce à quoi j'étais destiné. Et depuis lors, donc, j'ai essayé de marcher avec le Seigneur. Donc, mes plans, mes projets avaient complètement changé. Celui qui connaît Dieu, rien, aucune circonstance ne peut l'ébranler ou le perturber. Pourquoi? Car il sait que Dieu peut tout. Amen. Lorsque tu connais Dieu, tu sais que Dieu, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Et tu sais aussi qu'il n'est jamais en retard. Si, par exemple, tu sais que Dieu n'est jamais en retard, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Hein? Si tu sais que Dieu n'est... Tu ne seras pas angoissé. Hein? Tu ne seras pas angoissé. Tu dis que je sais que le Seigneur n'est jamais en retard. Donc, tu fais confiance au Seigneur, tu t'appuies sur le Seigneur et... Tu ne fais pas confiance à ce que tes yeux voient. Parce que tu sais que Dieu, lui, il peut changer les circonstances. Amen. Tu ne vas pas t'appuyer sur ce que les hommes disent, ce que les gens vont raconter. Mais tu vas faire confiance aux promesses de Dieu. Et tu vas dire, le Seigneur m'a parlé et je sais que en son temps, il interviendra. Vous voyez, c'est parce que Saül ne connaissait pas vraiment Dieu quand il était mis sous pression par le peuple. Il a dit, ah, Saül, Saül disait, Samuel a du retard, il n'arrive pas. Alors, je vais faire le sacrifice moi-même. Ce que Saül ne pouvait pas faire, parce qu'il n'appartenait pas à la tribu des Lévites, il n'était pas sacrificateur, Il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices. Et alors, comme le peuple faisait pression sur lui et que les gens commençaient à fuir et à l'abandonner, donc il a cédé sous la pression du peuple. Alors que Samuel, l'homme de Dieu, lui avait dit, attends-moi. Attends-moi, au septième jour, je viendrai. Mais le septième jour était là et Saül a commencé à paniquer. Mais s'il connaissait son Seigneur, comme David, eh bien, il aurait attendu le temps de Dieu. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il n'est jamais en retard. Il ressuscite les morts. Souvenez-vous, lorsque Lazare était mort, et que par après, quand Jésus est revenu, et Marthe ou Marie, je ne me rappelle plus laquelle, qui disait, « Ah, maître, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et alors Marthe disait, « Ah oui, je sais, à la fin des temps. » Mais Jésus dit, « C'est maintenant que je suis la résurrection et la vie. » Et alors, Jésus donc a fait sortir Lazare du tombeau. Et Jésus avait fait exprès pour tarder, en fait, pour prendre son temps quand il était parti, pour montrer que, eh bien, rien n'est impossible à lui. Et que ce que Marthe et Marie avaient pensé être un retard n'en était pas un en réalité. Et je crois que souvent dans notre vie, ça arrive aussi. On pense que Dieu est en retard. On est vraiment au bord du précipice. On dit, ah, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va intervenir? Mais il a son temps. Amen. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc nous devons, lorsque nous connaissons le Seigneur, nous pouvons dire que le Seigneur ne me laissera pas tomber. Le Seigneur ne me laissera pas tomber. Il peut tout, rien ne lui est impossible. Et il peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. Vous vous souvenez, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, il n'y avait pas de chemin. Mais il a tracé un chemin. Il a fendu la mer Rouge en deux. Vous savez, j'ai vécu une situation terrible il y a quelques années de ça. Lorsque j'avais l'église à Bruxelles, à un moment donné, le bâtiment qu'on occupait avait été vendu, sans même qu'on soit au courant. Et quand le propriétaire donc est venu à qui le bâtiment, le nouveau propriétaire, il a dit, vous devez partir tout de suite. Imaginez. Donc c'était le vendredi. Donc pendant plusieurs semaines, on ne savait pas encore ce qui arriverait au bâtiment. Et on était en train de négocier avec quelqu'un, en fait un autre acheteur du bâtiment. On pensait que on allait pu rester, en fait régler quelque chose avec ce monsieur. Mais ce monsieur nous a complètement roulé dans la farine. Et alors, ce qu'il faisait, en fait, pendant qu'il négociait avec nous, il cherchait une meilleure offre, en fait, pour lui. Donc, et finalement, il a vendu le bâtiment sur notre dos. Et alors, le vendredi, donc on m'appelle à 5 heures de l'après-midi, comme ça. « Monsieur le pasteur, donc le bâtiment a été vendu. » J'ai dit, « Ah bon ?» Et pourtant, on avait eu plusieurs rendez-vous. Chaque fois qu'on avait un rendez-vous, il a reporté ça, il a trouvé une excuse. Et entre-temps, je ne savais pas qu'il était en train de voir celui qui allait lui faire une plus grosse offre. Bon, voilà, le bâtiment a été vendu. Mais quand le bâtiment a été vendu, il a dit, essayez de voir ce monsieur-là, et alors pour trouver une solution. J'ai dit, d'accord. Donc, on m'appelle le vendredi, et le samedi, je vois le nouveau propriétaire, et le propriétaire me dit, voilà, maintenant, c'est mon bâtiment, vous déguerpissez. Et tout de suite. J'ai dit, comment? Tout de suite. Il dit, tout de suite, donc vous partez. Et j'ai dit, mais écoutez, donc les fidèles ne sont pas au courant que le bâtiment a été vendu, etc. J'ai dit, bon, au moins, le lendemain, je dois annoncer que on n'est plus dans le bâtiment. Il a accepté, il a dit, ok, je vous donne un jour seulement. Donc, on est samedi, il dit, ok, Et alors j'arrive, donc le lendemain, on a le culte, j'ai dit au peuple de Dieu, nous sommes devant la mer Rouge. Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant son peuple, et il fera cela. Et vous savez, trouver quelque chose à Bruxelles, c'est très compliqué. En fait, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et c'est très, très, très compliqué. Et j'ai dit, on va faire confiance au Seigneur et le Seigneur agira. Et voilà, j'ai dit ça devant le peuple de Dieu. Et dès le soir, j'ai commencé à chercher sur Internet. Ça se passait en 2001. Dès le soir, j'ai commencé à chercher sur Internet, faire des recherches partout. C'était très difficile. Mais vous savez, le vendredi, je signais donc un nouveau contrat de location à un autre lieu. Le Seigneur avait répondu. Vous voyez, Dieu est bon. Donc, il est capable de tracer le chemin là où il n'y en a pas. Donc, nous devons, quand on connaît le Seigneur, eh bien, on sait qu'il peut tout, qu'il n'est jamais en retard, et qu'il est capable de ressusciter les morts et qu'il trace un chemin dans la mer Rouge. Donc, Dieu peut tout. Ensuite, on sait aussi que Dieu connaît tout. Parfois, les circonstances nous prennent au dépourvu, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais Dieu, lui, il n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Parfois, je prie comme ça, je dis, Seigneur, voilà, je ne m'attendais pas à ce que cette chose-là m'arrive à moi. Mais je sais que si je suis pris au dépourvu, toi, tu n'es pas pris au dépourvu. Toi, tu n'es pas pris au dépourvu parce que tu connais tout. Tu connais le passé, le présent et l'avenir. Et tu sais aussi que le Seigneur nous dit que pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Donc, quand tu sais que Dieu connaît tout, eh bien, tu restes calme, qu'il n'est pas pris au dépourvu, et que supposons qu'on t'accuse, ou bien qu'on médise sur toi, ou qu'on te calomnie, tu dis, Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît tout. Même si on t'accuse, c'est pas grave, mais Dieu connaît tout. Et que je fais confiance à mon Dieu. Donc, tu ne vas pas paniquer. Tu ne vas pas être angoissé. Et tu sais aussi que rien ne lui est caché. Dans le psaume 139, il est dit, « Où irai-je loin de ta face ? » Est-ce que tu vas monter dans les cieux ? Il y est. Tu vas descendre en dessous de la terre ? Il y est. Tu vas dans les profondeurs de la mer ? Il y est. Il est partout. Bon, maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le fait de dire que Dieu connaît tout, ça peut être comme une source de frayeur pour eux. Mais si tu connais vraiment Dieu et que tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, ça ne doit pas être une source de frayeur, mais ça doit être une source plutôt de réconfort, de dire le Seigneur connaît tout. Et cela aussi doit te pousser à marcher de manière droite devant le Seigneur et de te dire, je ne vais pas marcher droit seulement quand les gens me regardent, mais même quand je suis seul. Et c'est là qu'on connaît le vrai caractère de quelqu'un. Comment il se comporte lorsqu'il est seul, lorsque personne ne le regarde. Vous savez, j'ai appris cette leçon un peu de manière plus difficile que cela. Lorsque j'étais adolescent, hein, il y a quelques adolescents ici, et je me rappelle, donc j'aimais aller au cinéma. Et une fois, j'étais allé au cinéma, ça se passe en Haïti, et puis à un moment donné, je me suis amusé avec les, comment est-ce que je pourrais dire ça, les petits sachets là qu'on couvre les bonbons, comment est-ce qu'on appelle ça, vous savez les bonbons, alors il y a le papier de bonbon, merci, oui, le papier de bonbon. Alors une fois que j'avais mangé le bonbon, je prends le papier de bonbon et puis hop, je lance pour taquiner. Donc j'étais au cinéma, il faisait sombre, on est dans la pièce, il n'y a personne qui me voit. Et il n'y a personne qui me connaît, bon, je ne suis plus dans la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, et puis mon père me dit, ah, quelqu'un t'a vu en train de lancer des papiers de bonbon. Je dis, ah bon? Donc je pensais que j'étais ni vu ni connu, mais ce n'était pas le cas. Donc on doit se dire que même si personne ne nous regarde, mais le Seigneur, lui, il nous regarde. Et que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Et nous ne vivons pas pour les autres non plus, nous vivons avant tout pour le Seigneur. C'est pour cela que, donc lorsqu'on connaît Dieu, on apprend à être honnête, à être droit en toutes circonstances. Donc si l'on fait quelque chose, c'est avant tout pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est notre motivation en toutes choses. Amen. Pascal m'a invité aujourd'hui. Je viens parce que je suis son ami, mais avant tout, c'est pour le Seigneur. Amen. Parce que j'aime le Seigneur. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons, eh bien, avant tout, pour le Seigneur. Donc, Dieu, il connaît tout. Il me voit le jour, il me voit la nuit, il me voit ici à Boitte-Villers. Et quand je voyage, peut-être là où il n'y a personne qui me connaît, il me voit. Donc, je n'aurai pas une autre attitude lorsque je voyagerai loin. C'est pour ça que Daniel pouvait rester fidèle à son Dieu, même lorsqu'il était transporté, exilé jusqu'à Babylone. On lui a dit, écoute, Daniel, mange ceci. Il lui a pu dire, ah, je ne suis plus en Israël, je peux manger tout ce que je veux. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, il a dit non. Non, au roi, je ne peux pas manger ces choses-là. Il était seul avec ses trois autres amis, là. Il aurait pu dire, bon, voilà. Je me rappelle, je travaillais dans un centre pour réfugiés. Et des fois, il y avait des musulmans. Hein. Et vous savez que les musulmans, en principe, ne mangent pas de porc et certaines choses. Mais je voyais certains, quand il n'y avait pas d'autres musulmans, qui regardent, « Oh oui, tu peux me donner. » Ils mangeaient de tout. Ils mangeaient de tout. Alors, donc quand ils étaient seuls, donc ils oubliaient à quelle religion ils appartenaient, etc. Donc, vous voyez, nous, on est chrétiens non pas seulement à l'église, mais on doit être chrétiens à la maison, dans la rue, à l'école, que ce soit en Belgique, que ce soit lorsque nous voyageons à l'étranger, parce que nous connaissons Dieu. Nous connaissons qui nous servons. Donc Dieu, il peut tout, il connaît tout. Et nous savons aussi que Dieu a la toute sagesse. Ça veut dire qu'il est capable de changer le mal en bien. Qu'il fait que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais nous disons, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Seigneur, je te fais confiance. Et je sais, Seigneur, si tu m'as amené dans cette circonstance, donc tu peux aussi m'en sortir. Et tu vas me donner la force pour traverser ces circonstances-là. Parce qu'il dit qu'il ne va pas nous tenter ou nous éprouver au-delà de nos forces. Et qu'il a déjà même préparé un moyen pour nous en sortir. Dieu est le Dieu de toute sagesse. Amen. Dieu est le Dieu de toute sagesse. Il a son temps, il a sa méthode, il a sa conception des choses, et je lui fais confiance. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, mais je m'appuie sur la sagesse de Dieu, qui sait tout. Non, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et il sait ce qui est mieux pour nous. Amen. Il sait ce qui est mieux pour nous. Si Dieu ferme une porte, un endroit, ça veut dire qu'il a ouvert une autre, ailleurs. Donc Dieu peut tout. Dieu connaît tout. Dieu a la toute sagesse. Et Dieu est amour. Dieu est amour. David, c'est extraordinaire. David, hein, dans l'Ancien Testament, il connaissait ça déjà. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de révélations qu'il ne connaissait pas. Mais parfois, on pense qu'on est plus fort qu'eux, mais ce n'est pas vrai. C'est comme dans le domaine de la science aujourd'hui. Bon, il y a Internet, il y a toutes sortes de choses, mais parfois, les hommes sont orgueilleux, ils pensent qu'ils étaient plus intelligents que les anciens. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai connu un missionnaire américain, un vieux missionnaire, quand j'étais au collège biblique. C'était un régal d'être dans la classe de cet homme parce qu'il nous racontait des histoires qu'il avait vécues. Et il a été dans une tribu en Afrique où ces gens-là faisaient déjà des calculs astronomiques. Donc, ils faisaient les calculs du mouvement des étoiles, etc. Ils disaient, mais comment est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas tous les instruments modernes que les gens ont à la NASA et autres. Mais ils disaient, cette tribu-là faisait des calculs extraordinaires. Ils connaissaient le mouvement des étoiles, etc. Donc on pense qu'on est les meilleurs. Eux, ils sont dans la jungle, ils ne connaissent rien. Et pourtant, parfois, on est surpris. On est surpris. Donc je reviens à ce que je disais. Dieu est amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et ce principe, on le trouve déjà, comme je disais, dans l'Ancien Testament. Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Donc, lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'il ne change pas. On sait que Dieu, comme j'aime à le dire, n'a pas de saute d'humeur. Il ne va pas nous affubler de compliments aujourd'hui, mon amour, etc. Et puis demain, hop, changer complètement. Non, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons aussi que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de lui. Jacques 1, verset 17. Alors, cette année, cette nouvelle année, que nous puissions, que ce soit notre but vraiment de connaître Dieu, d'entrer dans son intimité, de dire « Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Et je veux être plus proche de toi. » Plus on est proche du Seigneur, plus on lui ressemble, plus on produit les fruits de l'Esprit. Parce que c'est sa présence en nous qui produit tous ces fruits-là. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la foi. Quand tu es avec le Seigneur, tu as la foi. Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Cette foi-là, ce n'est pas en toi. Ce n'est pas en ta personne que tu mets cette foi-là. Mais c'est en la personne du Seigneur. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Amen. Je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il me donnera la victoire, même si je ne comprends pas les choses, mais lui, il comprend. C'est rassurant, n'est-ce pas? C'est rassurant. Je ne connais pas tout, mais lui, il connaît tout. Je ne peux pas grand-chose, mais lui, il peut tout. C'est un compagnon extraordinaire. Je ne peux pas grand-chose, mais lui, il peut tout. Je ne connais pas grand-chose, mais lui, il connaît tout. Je n'ai pas beaucoup de sagesse, mais lui, il a la toute sagesse. Et aussi, même si malheureusement, parfois, je tombe, comme nous avons vu le cas de David, et que je fais une bêtise, je sais qu'il est le Dieu de compassion. Et il nous dit, et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais en même temps, je sais que je ne vais pas faire exprès pour tomber dans le péché. Parce que si je le connais, je sais que quand je pêche, eh bien, il est attristé. Amen. Il est attristé. Et que je sais aussi le prix qu'il a payé pour me sortir du péché. Hein, la sœur vient de le dire. Je sais le prix. Dieu est extraordinaire. Donc, en écoutant ma soeur, j'ai dit, Dieu est bon, hein? Il nous parle par toutes sortes de circonstances. En faisant le pain, et puis Dieu lui parle, il dit, regarde, tu vois. Dieu nous parle en toutes les circonstances. L'autre jour, là, j'ai pris l'avion, et pendant que je prenais, à chaque fois que je prends l'avion, le Seigneur me parle, me donne des leçons. Et tu vois, quand tu décolles, au moment du décollage, en fait, de nos jours, on sent moins le décollage qu'auparavant. Il y a 20 ans de ça, 20, 30 ans, quand on décollait, on se sentait vraiment. Mais maintenant, bon, les choses se font un peu plus automatiquement. Mais n'empêche, quand au décollage, on sent la poussée. Et alors, je pensais, je disais, c'est, la vie chrétienne, c'est comme ça. Quand on démarre au départ, on sent le progrès. Mais puis après un certain temps, une fois qu'on est dans les airs, on court à peu près à, je ne sais pas, 800 km à l'heure. Mais c'est comme si on faisait du surplace. On avance, mais on dirait qu'on fait du surplace. Et c'est la même chose, spirituellement parlant. Au début de notre conversion, on dit, ah, on progresse. Et puis après un moment, on dirait comme si c'est le plateau, on ne progresse plus. Mais non, ce n'est pas vrai. On avance. Donc, je vous invite à apprendre à connaître le Seigneur. Et peut-être à un moment donné, vous dites, ah, je fais du surplace. Mais non, tu es en vitesse de croisière et tu ne le sais pas. Aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur, tu es en vitesse de croisière. Tu vas à 800 km/h et tu ne t'en rends même pas compte. Et le Seigneur dit, tu vois, au départ, tu le sens. Mais une fois que tu es en l'air, tu as atteint la vitesse de croisière, tu ne te rends même pas compte que tu avances. Et c'est seulement quand tu arrives, tu dis, ah, vraiment, je suis arrivé. Et dans la vie spirituelle, ce sera comme ça. Vous allez regarder en arrière et dire, ah, j'ai fait du progrès. Vous allez voir, ah, il y a des choses qui m'énervaient autrefois et maintenant, ça ne me dit rien. Hein? Il y a des gens qui ont vécu ça? Hein? Des choses qui m'énervaient, des choses qui me troublaient. Maintenant, ça ne me trouble plus. Ça ne m'énerve plus. Hein? Parce qu'on a, on a appris à connaître le Seigneur. On a appris à connaître sa parole. On a appris à marcher avec lui. Donc, c'est l'aventure que je nous souhaite, à connaître davantage le Seigneur, de sorte que sa connaissance nous transforme notre façon de voir, transforme notre attitude, et que l'on puisse donner ce témoignage, comme on l'a fait au sujet de David, que nous sommes chacun l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Ou comme on l'a dit d'Abraham, c'était un ami de Dieu. Qu'on puisse dire de nous chacun que nous sommes vraiment des amis de Dieu. Pas seulement des membres d'église, mais des amis de Dieu. C'est le plus beau compliment. Des enfants de Dieu. De véritables enfants de Dieu. Des enfants qui reflètent sa gloire, qui reflètent son caractère. Que ce soit notre but, de refléter le caractère de Dieu. Et lorsque tu sais que tout ce que tu as vient du Seigneur, eh bien, ça te rend humble devant lui. Ce n'est pas moi, mais c'est lui au travers moi. Amen. Je demande à quelqu'un, encore un autre volontaire, de prier, de remercier le Seigneur pour le message.